notre cœur pour bien recevoir la parole de Dieu. Dans la Bible, nous avons l'exemple de la parole de Dieu qui est comparée à une semence. Et nous notre cœur est comparé à la terre. Et la Bible dit qu'on peut être soit de la bonne terre ou on peut être une terre qui ne produit pas beaucoup de fruits. Mais je sais que votre désir, c'est d'être de la bonne terre ce matin, n'est-ce pas? Donc, je sais que le message et que la parole qu'on va annoncer, c'est de la bonne semence. Mais on va recevoir la semence comme il faut ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime faire une petite déclaration, un genre de prière, une déclaration de la foi. Parce que la Bible dit que ce que nous disons avec notre bouche et ce que nous croyons de notre cœur s'accomplit. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre vos Bibles. Sinon, il y a une feuille à l'intérieur de votre bulletin et je pense qu'il y a peut-être quelques-uns qui n'ont pas encore reçu un bulletin. Vous pouvez juste lever la main et peut-être Michel peut donner un bulletin à ceux qui n'ont pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu? Ne soyez pas gênés parce qu'il y a des choses importantes à voir. Une feuille avec tous les versets, les notes pour que vous puissiez suivre avec nous ce matin. Soyez pas gênés de... Levez votre main si vous n'avez pas encore votre feuille. Mais on va prendre nos Bibles ou nos feuilles. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole incorruptible de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole vivante de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai à jamais changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux, hein? Je suis ce qu'elle dit que je suis, je possède ce qu'elle dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ça, c'est une déclaration merveilleuse qu'il faut faire régulièrement. Mais ce matin, comme j'ai dit, on va aller voir les choses concernant comment réaliser votre raison d'être. Combien c'est important de savoir pourquoi nous sommes ici sur la terre. Comme j'ai dit la semaine passée, la plupart des gens pensent que la seule raison pour laquelle nous sommes sur la planète, c'est pour avoir du plaisir, pour avoir du fun, pour trouver un bon travail, amasser le plus d'argent que possible, acheter les plus grands jouets que possible. Je dis jouets parce que vous savez, la seule différence entre les garçons et les hommes, c'est le prix de le jouet, n'est-ce pas? Hein? Et c'est vrai, et pas juste les hommes, mais les femmes aussi. Mais laisse-moi vous dire une chose, combien de gens ont essayé de satisfaire le désir de leur âme avec les choses de ce monde, mais ils sont déçus, ils sont pas contents, ils sont pas satisfaits. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que sans Jésus, la vie n'a aucun sens. Avec Jésus, nous savons pourquoi nous sommes là. Et la semaine passée, nous avons vu que la première chose qu'il faut faire pour vraiment découvrir et réaliser votre raison d'être, c'est qu'il faut découvrir une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et expérimenter la nouvelle naissance. Jésus a dit que si vous ne naissiez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et on a expliqué c'est quoi la nouvelle naissance. C'est que quand on est né dans le monde, naturellement, nous sommes nés physiquement, mais notre esprit, le vrai nous, et notre cœur est infecté par le péché. Et dès que nous avons une conscience du péché, que nous sommes morts spirituellement, séparés d'avec Dieu. Mais que quand nous avons accepté Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix, quand nous avons cru en Jésus et quand nous avons confessé avec la bouche et cru dans notre cœur que Jésus était crucifié et ressuscité, la Bible dit que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle, que notre esprit a repris vie. Nous étions encore mis en contact avec Dieu le Père. C'est pas une question d'être religieux. C'est pas une question d'aller à l'église 7 jours par semaine. Comme j'ai dit, je peux me coucher dans le garage et je vais pas devenir une auto le lendemain. Je peux aller me coucher chez McDo et je vais pas devenir un Big Mac ou un hamburger. Et vous pouvez venir à l'église tous les jours, vous pouvez prier tous les jours, vous pouvez même lire la Bible à tous les jours, mais si vous n'avez pas reçu le don gratuit de la vie éternelle, si vous n'êtes pas passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez rien. Amen? Donc ça commence avec la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Mais on n'arrête pas là.
Ça, c'est pas la seule chose que Dieu veut. Dieu ne veut pas seulement avoir les petits bébés spirituels. Dieu est un père et Dieu a toujours voulu avoir une grande famille. Tout le monde dit une grande famille. Vois-tu, on n'est pas des orphelins, on n'est pas des bébés spirituels qui sont nés et qui n'ont pas de contact et qui n'ont pas de lien avec d'autres. On est vraiment nés de nouveau, mais on est nés dans une famille. Et si vous voulez découvrir et trouver votre raison d'être sur la terre, il faut trouver la joie d'appartenir à sa famille. Amen? Tout le monde dit, la joie d'appartenir à sa famille. Laisse-moi vous dire une chose. Vous ne serez jamais heureux dans la vie. Vous ne serez jamais satisfait dans votre vie à moins d'avoir une révélation de qu'est-ce que cela veut dire de participer et d'appartenir à la famille de Dieu. Amen? Ce n'est pas assez juste de connaître Dieu. Il y a des personnes qui ont dit, par exemple, et qui disent souvent, « Mais tu sais, moi et le Seigneur, nous avons notre propre truc, nous avons une bonne relation. Dieu, c'est mon chum. Jésus, c'est mon petit pote, comme ils disent en France. Et nous avons vraiment une bonne relation. J'ai pas besoin d'une église. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Le Seigneur et moi, nous avons notre propre chose. Pour moi, mon église, c'est le bois. Ma chapelle, c'est mon bateau. C'est le terrain de golf. Combien de vous avez entendu les personnes parler comme ça? Pas besoin de l'Église, pas besoin d'autres personnes. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas vrai. L'Église ou la famille de Dieu est comparée à un corps physique. On voit souvent dans la Bible que notre corps physique est utilisé comme un symbole, comme une représentation de l'Église ou de la famille de Dieu. Et quand je parle de l'Église, on sait que l'Église existe sur deux niveaux. Il y a l'Église universelle qui comprend tous ceux qui croient en Jésus-Christ, peu importe la confession, peu importe où ils se trouvent, qu'ils soient en Chine, en Afrique, au Québec, aux États-Unis ou au ciel. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau font déjà partie de la famille de Dieu, de l'Église universelle. Mais il y a aussi les églises locales, comme notre église, la Vie Comblée. Et ensemble, nous formons le corps de Jésus-Christ. Amen? Et l'église est comparée à un corps. Et on va juste prendre cet exemple pour une minute. Si vous êtes supposé et destiné à être une main dans le corps de Christ, une main gauche dans le corps de Christ, et ça, c'est vraiment votre destinée. Avant la fondation du monde, Dieu a formé sur vous les projets et les plans. Il vous a créé pour une raison, pour un but spécifique. Vous avez une raison d'être ici sur la terre et pour l'éternité. Mais si votre raison d'être, c'est d'être une main gauche dans le corps de Christ, imaginez, qu'est-ce qu'une main gauche pourrait faire sans un bras? Rien. Qu'est-ce qu'un bras peut faire sans une épaule? Rien. Qu'est-ce qu'une épaule peut faire sans le restant du corps? Plus fort? Rien. Et laisse-moi vous dire une chose. Si vous n'êtes pas attaché, si vous n'appartenez pas à la famille de Dieu et si vous ne marchez pas dans la lumière de votre appartenance à l'Église, vous ne serez jamais capable de faire quoi que ce soit qui va compter pour l'éternité. Amen? Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez travailler. Vous pouvez jouer. Vous pouvez avoir des bons temps de loisirs. Mais vous ne serez jamais satisfait. Vous aurez toujours une vide dans votre cœur. Il y aura toujours quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que vous êtes destiné à faire partie de sa famille. Dieu est un bon père. Et nous sommes les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Amen. Une main sans un bras ne peut pas faire rien qui compte. Et un chrétien, un enfant de Dieu, une personne née de nouveau, qui n'est pas attachée aux autres membres de la famille, ne peut pas faire grand chose non plus. N'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi on voit la beauté de son plan. On voit jusqu'à quel point c'est merveilleux que Dieu, il n'est pas seulement intéressé à donner naissance spirituellement aux bébés, mais il veut que ces bébés naissent dans le contexte d'une famille, qu'ils soient bien soignés, bien entourés, et que dans le contexte de sa grande famille, on puisse grandir ensemble et travailler ensemble et avoir beaucoup de plaisir ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia! En fait, dans vos notes, c'est marqué en Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, ça parle de Jésus, hein, pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Soulignez le mot beaucoup. Il éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Le plan de Dieu, le désir de notre Père Céleste a toujours été d'avoir une grosse famille. Pas juste quelques-uns. Est-ce que vous savez que Dieu aime le monde entier? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tout le monde fasse partie de sa famille. Amen? Et c'est important. Si vous n'êtes pas vraiment conscient de l'importance de la famille, sur le plan naturel et sur le plan spirituel, vous ne serez jamais heureux. Combien de vous avez vu les images ou peut-être dans les films comme Tom Sawyer, vous avez entendu parler de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, et dans le 19e siècle aux États-Unis sur le fleuve Mississippi. Je connais bien le fleuve Mississippi parce que moi j'ai grandi à Saint-Louis, juste sur la rive du Mississippi, il y avait, à l'époque, dans le 19e siècle, il y avait des bateaux qui fonctionnaient avec les fournaises et le moteur fonctionnait à la vapeur. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Vous avez vu ça dans les images, dans les films? Il y a une vraie histoire, quelque chose qui s'est passé dans les années 1800. Il y avait deux bateaux qui partaient du port de Memphis dans le Tennessee. Vous connaissez Memphis, hein? C'est là où Elvis vivait. Mais, vois-tu, ils partaient tous les deux pour aller à Nouvelle-Orléans. OK? Ils étaient supposés de descendre tout le fleuve Mississippi jusqu'à Nouvelle-Orléans. Mais ils étaient l'un à côté de l'autre en train de descendre le fleuve. Et tout d'un coup, quelqu'un avait une idée. On va faire une course. Là, ils ont pris ça au sérieux. Chaque équipe de bateau était vraiment sérieux. On va gagner. Et à l'époque, ils transportaient les biens précieux. Et le bateau était rempli de biens précieux qu'ils transportaient. Mais donc, ils ont commencé et vraiment, la course était, ils allaient rapidement et descendaient le fleuve. Mais après quelques heures, plusieurs heures de la course qui durait, ils ont commencé à manquer du charbon pour alimenter le feu. Alors donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parce qu'ils avaient assez de charbon pour descendre à Nouvelle-Orléans, mais pas assez pour avoir une course, pour aller si vite que ça. Donc, il y avait un monsieur qui avait une idée. Bon, il y avait des choses, même des biens précieux qui transportaient dans les bois. Mais ce bois-là, ça va brûler. Donc, il a commencé à mettre ça dans la fournaise. Les meubles, tout ce qu'il pouvait voir, il mettait dans la fournaise. Et donc, est-ce qu'ils ont gagné la course? Oui, ils ont gagné la course. Mais vois-tu, qu'est-ce que le problème, c'est qu'ils ont brûlé tous les biens précieux. Et je pense que c'est un bon exemple de qu'est-ce que nous faisons des fois par rapport à la famille, à nos familles, si on parle de nos familles naturelles ou si on parle de la famille spirituelle. Des fois, on est tellement préoccupé, on a nos propres désirs, on veut gagner, on a des objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs que Dieu nous a donnés, mais nous avons nos propres idées de qu'est-ce que nous voulons faire dans la vie. Et on veut tellement saisir et atteindre ces objectifs qu'on est prêt à brûler et même détruire les choses qui sont les plus précieuses. Et c'est quoi qui est le plus précieux dans nos vies? Vraiment, c'est la famille. Amen? Combien d'hommes d'affaires ont brûlé leur famille? Hein? Combien même des pasteurs ont brûlé leur famille? En voulant faire du ministère et saisir un grand ministère, ils ont sacrifié leurs femmes, leurs enfants. Combien des fois est-ce que c'est le cas? Ou des fois, même en concernant nos rapports avec nos frères et nos sœurs dans le corps de Christ, au lieu de vraiment mettre l'accent sur ce qui est le plus précieux, on est prêt à brûler les relations afin d'atteindre nos objectifs. Ou afin de se faire plaisir soi-même. N'est-ce pas vrai? Laisse-moi vous dire une chose. Ça ne vaut pas la peine. j'aimerais mieux aller un peu plus lentement et arriver à Nouvelle-Orient avec tous les biens intacts. Amen. Au lieu de brûler nos relations juste parce que nous voulons saisir quelque chose, parce que nous voulons faire quelque chose. Même dans les églises, des fois, on voit, les personnes veulent un tel ministère et ils veulent tellement avoir un tel ministère qu'ils sont prêts à marcher sur les autres. Ça ne devrait jamais être le cas dans une famille, n'est-ce pas vrai? Donc, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment on peut vraiment avoir la joie d'appartenir à sa famille? Et ces principes vont s'appliquer à vos familles personnelles, ça va s'appliquer à notre église locale, mais ça va s'appliquer aussi à la relation que cette église a avec toutes les autres églises. Parce que notre église fait partie d'une grande famille de l'église universelle de Jésus-Christ. Amen. On est tous dans le même bateau, on dirait, et on ne devrait jamais brûler ce qui est le plus précieux juste pour gagner ou juste pour saisir les choses que nous voulons faire. Il faut chercher le plan de Dieu. Alléluia. On voit combien c'est important, la famille. Dans notre société, s'il y a une chose que le diable, notre ennemi, veut faire, c'est qu'il veut détruire les familles, en commençant avec les couples. Il veut détruire et séparer les couples, et puis il veut séparer maman d'avec papa, il veut détruire les familles. Pourquoi? Parce que les familles sont la force de notre société, c'est la force de notre Église, c'est la force de la race humaine. Amen? Et on voit, si une personne grandit dans une famille qui est saine, équilibrée, la personne va 9 fois sur 10 réussir. Mais si une personne ne grandit pas dans une famille qui est saine et équilibrée, est-ce qu'il peut réussir quand même? Oui, mais c'est juste par la grâce de Dieu. Amen. Je sais, parce que même moi, ma famille a vraiment subi des difficultés à l'âge de 9 ans. Mon père a quitté ma mère et j'étais dévasté. Et au lieu d'être un bon étudiant que j'étais avant, j'allais plus à l'école, mes notes ont pris une chute horrible. Je commençais vraiment à avoir des troubles émotionnels, etc. C'est seulement à travers Jésus-Christ que j'ai pu vraiment être rétabli et avoir la victoire. Amen. Mais c'est important, la famille. Et même, ils ont fait les études dans le monde. Et ils ont fait les études des millionnaires. Vous savez une chose? La plupart des millionnaires, ce sont les hommes qui travaillent fort, c'est-à-dire 8 à 10 heures par jour. Mais la plupart des millionnaires sont mariés avec la même femme. OK? Et la femme que, d'habitude, c'est vraiment la femme qu'ils ont rencontrée à l'école secondaire et à l'université. Ils ont resté fidèles, ils ont eu un bon mariage. Et la plupart des millionnaires sont les personnes qui ont compris c'est quoi d'avoir un mariage qui est stable. Amen? Même là, laisse-moi vous dire une chose. Ils ont fait une étude des vice-présidents des gros compagnies, des grandes entreprises, et 87% des vice-présidents des grosses entreprises, ils sont mariés avec la même femme depuis toutes ces années. Quelque chose, n'est-ce pas? 92% ont été élevés dans les familles avec deux parents. Mais je sais que c'est un sujet sensible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart de nous, incluant moi-même, moi, je n'ai pas grandi avec maman et papa. Moi, j'ai grandi avec maman et des fois, grand-maman et grand-papa. Et des fois, j'ai habité avec ma tante. OK? Et une autre fois, j'habitais juste avec des amis. Donc, moi, j'ai déménagé 19 fois avant d'avoir 16 fois, je pense, 16 fois avant d'avoir 21 ans. Donc, moi, je n'ai pas grandi dans un contexte trop stable. OK? Donc, je ne dis pas ces choses pour vous désespérer, parce qu'avec Jésus-Christ, peu importe la situation, on peut gagner, on peut vaincre. Amen? Mais quand même, qu'est-ce qu'on devrait viser pour nos enfants et pour notre Église? C'est une atmosphère qui est saine et équilibrée. Amen? Et ils ont fait encore les études juste dans le monde. Ils ont découvert que... il y a une place dans vos notes, où c'est marqué « notes », si vous voulez écrire qu'est-ce que je vais vous dire, ça serait peut-être une bonne idée. Ils ont trouvé 8 choses que la plupart des bonnes familles ont en commun. Les familles qui sont saines, équilibrées, qui fonctionnent bien, ils ont ces 8 choses en commun. Et dans le fond, qu'est-ce que le monde a découvert? C'est les principes bibliques. Que si on applique ces principes bibliques à notre vie quotidienne, ça va nous donner de la victoire au niveau de la famille. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que numéro un, toutes les familles saines et équilibrées ont de la bonne communication. Tout le monde dit communication. Plus fort, s'il vous plaît, communication. Nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie de la famille de Dieu. Si la famille de Dieu va grandir, si on va avoir la joie dans notre église locale, ou si vous allez avoir la joie dans votre foyer, il faut avoir de la bonne communication. Amen. Et ça, c'est un art qu'il faut développer. Et plus tard, on va faire d'autres séries sur le mariage. Bientôt, même probablement, on va faire une série sur le mariage et les familles, etc. On va parler davantage de la communication, les choses de même. Mais la deuxième chose que toutes les familles saines et équilibrées ont en commun, c'est qu'il y a beaucoup de respect. Tout le monde dit respect. Beaucoup de respect entre le père et la mère. C'est-à-dire que le mari va honorer sa femme, la femme va honorer son mari, les enfants vont honorer les parents. Il y a du respect. Et c'est la même chose. Si on veut avoir une atmosphère familiale qui est fructueuse et qui est joyeuse, il va falloir avoir de la bonne communication et il faut avoir du respect. Amen? Du respect, c'est-à-dire que même si vous êtes différent que moi, j'ai quand même du respect pour vous. Amen? Tu ne fais pas la même chose que je fais, de la même façon que je le fais, mais j'ai du respect pour toi. Tu es un être humain, mais plus que ça, tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et si tu es né de nouveau, tu es digne de respect. Troisième chose, c'est le soutien. Les bonnes familles vont se soutenir les uns les autres. Ils sont là les uns pour les autres. S'il y a un problème, les autres membres de la famille viennent au secours. Combien de vous avez eu l'expérience de marcher dans la noirceur? Peut-être vous êtes au milieu de la nuit, vous avez besoin d'aller aux toilettes, quelque chose, et puis vous allez à côté de votre petit orteil. Hein? Vous avez eu cette expérience? Que fait les autres membres de votre corps à ce moment-là? Oh, je m'en fiche, c'est juste une petite orteil. Non? Tout le corps dit, ah, wouh! Ça fait mal! Wouhou! On danse, on chante un petit peu des fois, on ne veut pas pleurer, des fois on ne veut pas crier, mais on va... Wow! Tout le corps va répondre, amen? C'est la même chose dans une famille. Si un membre souffre, tous les autres membres devraient réagir et venir au secours. Amen. Ça, c'est une caractéristique d'une bonne famille saine, équilibrée. Quatrième chose, c'est la confiance. C'est-à-dire que si tu me dis quelque chose, je te fais confiance. Et si je te dis quelque chose, tu me fais confiance. C'est une confiance réciproque. Si on n'a pas de confiance dans un mariage, le mariage ne va jamais fonctionner. S'il n'y a pas de confiance dans une famille spirituelle ou dans une famille naturelle, ça ne va pas marcher non plus. Cinquième chose, c'est que les familles équilibrées et saines, ils vont partager leur temps et ils vont partager leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, souvent ensemble, dans plusieurs contextes. Pas juste pour travailler, pas juste pour manger, mais ils sont ensemble souvent dans plusieurs contextes. Et dans une église, c'est la même chose. Voulez-vous avoir une bonne église, joyeuse et remplie d'amour? Prenez le téléphone et invitez les personnes d'aller souper avec vous ou de faire quelque chose, aller jouer au quilles ou jouer au golf ou faire quelque chose ensemble, à part de juste venir à l'église. Amen? Si vous passez du temps ensemble, si vous partagez les responsabilités ensemble, vous allez vous approcher les uns aux autres et vous allez avoir de la joie à appartenir à sa famille. Mais c'est la même chose pour votre foyer. Passez du temps avec vos enfants. Faites des choses d'agréables et de fun avec eux. Et c'est important. Prenez les vacances avec les enfants. Alléluia. Faites les choses ensemble. Numéro 6, les familles équilibrées, ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est le monde qui a découvert ces choses. Ils connaissent, c'est les universités qui ont fait les sondages et les études sur les familles. Ils ont découvert ces 8 choses. Mais ces choses confirment qu'est-ce que la Bible nous dit déjà. Amen. Ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Même chose pour nous, hein. Si notre église va être une église joyeuse, il faut qu'on connaisse la différence entre le bien et le mal. Numéro 7, ils vont partager certaines traditions. Il y a certaines choses qu'ils font ensemble, c'est une tradition. C'est comme dans les familles, hein, à Noël, des fois c'est le fun, on fait les choses, c'est comme une tradition. Il y a quelque chose quand on fait la même chose régulièrement, ça nous lie ensemble. N'est-ce pas vrai? Et c'est vrai pour une église aussi. On veut pas être traditionnel dans le sens que on remplace la parole de Dieu avec les traditions des hommes, mais c'est bon qu'on fasse des choses régulièrement. On vient régulièrement le dimanche matin. On a les rencontres régulièrement le mercredi. Il y a certaines choses qu'on fait régulièrement. Et numéro 8, ils partagent les mêmes valeurs religieuses de base. Donc, on sait que si on va avoir de la joie dans une famille naturelle, il faut qu'ils partagent les mêmes valeurs spirituelles de base. Si l'Église va être joyeuse, il faut que nous soyons tous sur la même page spirituellement. Il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Mais j'avais juste à cœur de vous donner ces 8 caractéristiques d'une bonne famille. Hein? Une bonne famille va avoir de la bonne communication, il y aura du respect, le soutien, la confiance, ils vont partager leur temps, les responsabilités, ils connaissent la différence entre le bien et le mal, ils vont partager des traditions et ils vont avoir les mêmes valeurs religieuses de base, ou les valeurs spirituelles de base. Ça, c'est qu'est-ce que le monde a dit, et on sait que c'est vrai, n'est-ce pas? Mais combien de vous savez que sans Jésus, c'est presque impossible de réussir et d'avoir une famille saine et équilibrée. Est-ce que vous êtes d'accord? Même avec Jésus, déjà c'est difficile. Combien de vous êtes d'accord? C'est pas toujours évident. Même en étant né de nouveau, en étant les enfants de Dieu, des fois c'est quand même un défi. Mais ceux qui ne sont pas dans la famille de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je ne sais pas comment ils pourraient le faire. Pour moi, c'est impossible. Mais avec Jésus, avec le Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On parle de comment avoir la joie d'appartenir à sa famille. Et ce matin, juste avant de partir, je vais juste lire plusieurs versets dans les premiers épîtres de Jean. Si vous voulez aller avec moi, 1 Jean, chapitre 3. Et on va voir qu'est-ce que l'apôtre Jean a dit à propos de la famille de Dieu et de comment on peut expérimenter cette joie d'appartenir à sa famille. C'est un privilège d'être dans la famille de Dieu, n'est-ce pas? Et on va voir que vraiment, pour nous, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu et découvert une vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est possible d'avoir une bonne famille sur la terre, c'est d'avoir un foyer qui fonctionne bien, mais aussi d'avoir une église qui fonctionne bien dans la joie. Mais en 1 Jean, chapitre 3, verset 1, la parole de Dieu dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Tout le monde dit, « Je suis enfant de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, souligne le mot maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il lui-même est pur. Donc, on voit ici que déjà, maintenant, je suis déjà enfant de Dieu. C'est pas une chose que je serai après la mort, une fois rendu au ciel, au paradis, mais maintenant, je suis déjà passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Je suis né de nouveau. Et j'espère ce matin que vous êtes né de nouveau. Sinon, vous pouvez naître de nouveau, même ce matin, avant de partir. Amen. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes maintenant, aujourd'hui, déjà enfant de Dieu. Dieu est votre Père. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous avez déjà une grosse famille spirituelle, l'Église universelle de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu est votre frère et votre sœur en lui. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon? Donc, comment est-ce qu'on peut avoir la joie d'appartenir à sa famille? Première chose qui est dans vos notes. Première chose qu'il faut. Il faut choisir. Il faut choisir, tout le monde dit choisir. Il faut choisir, on peut dire, choisir la bonne famille. Choisir la bonne famille. Voulez-vous avoir la joie d'appartenir à une bonne famille, saine, équilibrée? Choisir la bonne famille. Dans le naturel, on n'a pas ce privilège. Moi, je n'avais pas le choix. Je suis né dans la famille Taylor et je n'avais pas le choix de naître dans une autre famille. Vous êtes d'accord? Vous aussi, vous êtes nés dans le naturel parce que vos parents biologiques ont pris une décision de faire quelque chose. Amen? Et on sait tous qu'est-ce qu'ils ont fait, mais vous êtes nés dans leur famille naturelle, vous n'avez pas le choix. Et peut-être vous êtes bien content, peut-être vous êtes déçu. Mais la bonne nouvelle, c'est que spirituellement, on a le droit et le privilège de choisir notre famille. Amen. J'ai pas pu choisir mon père naturel, mais je peux choisir mon père spirituel. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est à moi de choisir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On entend les personnes aujourd'hui qui vont parler que toutes les religions sont bonnes. On est tous dans la même famille. Nous sommes tous une grande famille humaine. Laisse-moi vous dire une chose, c'est pas ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'il y a deux familles sur la terre. Il y a la famille de Dieu et il y a la famille de Satan. Deux familles. Et en fait, la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans la famille de Satan, spirituellement. En fait, nous sommes tous sous la puissance du diable. Et même les personnes religieuses à l'époque de Jésus, ils pensaient être dans la bonne famille parce qu'ils faisaient partie de la famille d'Abraham. Mais Jésus a dit une chose, et on va le lire en Jean chapitre 8, verset 42, c'est dans vos notes. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Verset 44 dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc on voit dans le fond qu'il y a deux pères spirituels. Il y a le diable, qui est le père des mensonges, et qui est meurtrier, et il y a le Père des Lumières, qui est notre bon Dieu, qui est merveilleux, qui est plein de miséricorde et de bonté, vraiment le seul vrai Dieu. Amen. Mais chacun de nous, nous avons un choix à faire, une décision à prendre. Choisissez la bonne famille si vous voulez avoir la joie d'appartenir à une bonne famille. Il faut choisir le bon père. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 23 dit, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Celui qui a le Fils a la vie, la Bible dit. Mais ici, on voit que ceux qui acceptent Jésus et qui reçoivent Jésus, ils reçoivent en même temps le Père. Amen. Donc, c'est à nous de choisir. N'est-ce pas merveilleux qu'on a le choix? C'est pas Dieu qui décide, lui, il va aller en enfer, lui, il va aller au ciel. Non, 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 non. C'est nous qui choisissons entre le Père de lumière ou le Père des mensonges. Nous sommes déjà membres de la famille du diable avant d'être nés de nouveau. Mais dès que nous naissions de nouveau, nous sommes transportés du royaume des ténèbres et nous sommes plantés et nés dans la famille de son Fils bien-aimé. Wouh! Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Choisissez la bonne famille. Deuxième chose, développez et imitez. Tout le monde dit développer et imiter. Hein? Imiter? Sur toi, on va le dire ensemble. Imiter. Un, deux, trois. Imiter. Bon, c'est important. Développer, imiter la nature de votre Père. Laisse-moi vous dire une chose. Quand vous êtes né de nouveau et vous êtes entré dans la famille de Dieu, vous avez reçu un nouveau cœur, une nouvelle nature. La nature pécheresse a été enlevée de ton cœur et Dieu a placé en toi une nouvelle nature de la justice et de l'amour. L'amour parfait de Dieu est répandu dans ton cœur. Et en 1 Jean chapitre 3, verset 9, lisons qu'est-ce que la Bible dit. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Combien de vous êtes né de Dieu? Si vous êtes né de Dieu, selon la Bible, vous ne pratiquerez plus le péché. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Nous voyons encore les deux familles qui sont sur la terre. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Comment dit Dieu est amour? Dieu est amour et sa nature est dans ton cœur. Et la Bible dit que si vous êtes né de Dieu, vous ne pécherez plus. Vous ne pratiquerez plus le péché. Est-ce que cela veut dire que vous ne tomberez jamais, que vous ne ferez jamais plus en une erreur? Non. On est tous quand même dans un corps physique qui est infecté par le péché. Des fois, on va avoir des moments de faiblesse et on va avoir des chutes. Mais là, on voit pratiquer le péché et avoir une chute occasionnelle, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Hein, quelqu'un qui pratique le péché, c'est comme un pêcheur professionnel. Laisse-moi vous dire, moi je joue au baseball à l'occasion avec mes fils, mais je ne suis pas un joueur de baseball professionnel. Voyez-vous la différence? Un joueur de baseball, il est bon à ce qu'il fait, et il le fait toujours, il le fait régulièrement et continuellement. C'est vraiment la façon qu'il vit, et il gagne son salaire en jouant le baseball. Moi, je peux jouer au baseball à l'occasion, juste pour avoir du fun, mais laisse-moi vous dire, je ne suis pas un joueur de baseball. Et c'est la même chose, je ne suis plus un pécheur non plus. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis plus obligé de pécher. Je ne pêche pas régulièrement, continuellement et sur une base régulière. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu de pécher régulièrement. Dans la famille de Dieu, on va développer et imiter la nature de notre Père qui est une nature d'amour. Peux-tu tomber à l'occasion? Oui, tu ne devrais pas et tu n'es même pas obligé de tomber. Mais quand tu tombes, tu peux te redresser, tu peux enlever la poussière, tu peux dire « Seigneur, pardonne-moi, je me repens. » Aide-moi, je ne vais plus le faire. Amen. Donc, c'est ça qu'on voit dans la famille de Dieu. Si on veut avoir la joie, il faut choisir le bon père et la bonne famille. Et ensuite, il faut développer la nature qui est déjà en nous. L'amour de Dieu est dans votre cœur. Vous êtes capable d'aimer comme Dieu aime. N'est-ce pas vrai? Mais il faut développer cet amour. Et puis, comme c'est marqué en Éphésiens chapitre 5, c'est dans vos notes. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tel le Père, tel le Fils. Amen. Combien de fois j'entends les personnes dire « Oh, ton gars, il me fait penser à toi. » Ou les personnes vont dire à propos de Lorraine, notre fille, « Oh, elle me fait penser à Tania. » Combien de vous qui sont parents, vous avez entendu les commentaires de même? « Oh, il est juste tel le Père, tel le Fils. » Vous savez, les gens, quand ils voient la famille de Dieu en action, quand ils nous voient ensemble, quand ils nous voient quand nous ne sommes pas ensemble, quand toi, tu parles de ton épouse ou tes enfants ou de ta famille spirituelle, les gens devraient reconnaître le Père en nous. Ils devraient dire « Wow, il me fait penser à Dieu. Il me fait penser à Jésus. » Quand je vois cette église ensemble, ils me font penser à Jésus. Amen. Tel le Père, tel le Fils. Sa nature est notre nature, mais on a besoin de développer et par la foi imiter notre Père. Alléluia. Souvent, mes enfants vont faire ça. Des fois, ils vont vouloir mettre mes souliers qui sont bien trop grands. Ils vont essayer de marcher dans les souliers de papa. Est-ce que vous avez vu ça avec les enfants? Si maman ou papa disent des choses, ils vont dire les mêmes genres de choses. Ils vont avoir les mêmes expressions. Des fois, on entend nos enfants dire les choses et c'est « Où est-ce qu'ils ont appris ça? » C'est de nous. C'est pourquoi il faut dire la bonne chose. Amen. Si vos enfants commencent à sacrer, vous allez dire « Oh, qu'est-ce que je dis? » Si vos enfants louent le Seigneur et si les enfants disent les bonnes choses, vous dites « Hey, gloire à Dieu, on donne un bon exemple. Tel le Père, tel le Fils. » Et si on veut avoir la joie dans sa famille, il faut qu'on développe et on imite la nature de notre Père. Et la troisième chose qui est dans vos notes, si on veut avoir une famille joyeuse et saine, équilibrée, aimez vos frères en parole et en vérité, en action, pardon. Aimez vos frères, on peut mettre aussi en parenthèse vos sœurs. Aimez vos frères en parole et en action. On va lire le verset qui est là, 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que vous êtes sûr et certain d'être passé de la mort à la vie? Voici la preuve. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Pourquoi est-ce que nous aimons les frères? Parce que le Père, sa nature, son amour est dans mon cœur. Je suis né de lui. Sa semence est en moi. Je suis né de nouveau et je suis né d'amour. Par un père d'amour, et j'ai la nature d'un père d'amour dans mon cœur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas ne demeure pas dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est fort, n'est-ce pas? Voulez-vous avoir une belle famille, chaleureuse, joyeuse? Choisissez le bon père. Développez, imitez la nature de votre Père Céleste, mais prenez une décision de marcher dans l'amour avec vos paroles et avec vos actions envers vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ, mais aussi dans le naturel, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos collègues au travail. Marchons dans l'amour. Bien-aimés, en Jean 4, 7, 8 dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. » Quiconque aime est né de Dieu. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous devriez aimer. Alléluia. Il n'y a rien de plus important. Prophétiser, c'est bien. Faire du ministère, c'est bien. Faire toutes sortes de choses devant les autres, c'est bien. Mais si vous n'aimez pas, ça ne donne rien. Ça ne vaut rien. Amen. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc je veux vraiment que vous voyez aujourd'hui la beauté de la famille de Dieu. Un seul père de tous. Dans le fond, il y a une seule église. C'est l'Église universelle. Jésus-Christ est la tête, il est le chef, mais Dieu est le Père. Et que vous soyez baptiste, méthodiste, pentecôtiste, peu importe la confession, si vous êtes né de nouveau, Dieu est votre Père. Et si vous êtes né de nouveau, je suis votre frère. Amen? Et vice-versa. Nous sommes dans une famille, mais si nous allons avoir une famille équilibrée, il va falloir... Après avoir choisi le bon père et la bonne famille, il faut reconnaître la nature divine est en moi. Je peux imiter mon Père Céleste. Je peux marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. De la même façon que Jésus a aimé, je peux aimer. Amen. Et en plus, je peux prendre une décision d'aimer mes frères et mes sœurs avec ma bouche, en parole et en vérité, en action. Alléluia. C'est-à-dire que je ne parle pas dans votre dos. Vous ne devrez pas parler dans mon dos. Personne ici ne devrait parler dans le dos de qui que ce soit. Quand vous parlez à quelqu'un à propos de votre mari, votre femme, vous ne devrez pas parler dans son dos non plus. Amen. Vous devrez démontrer l'amour de Dieu jusqu'au point que les gens disent, « Tu sais, cet homme, cette femme me fait penser à Jésus. » Amen. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce que sa vie entière me fait penser à Dieu, tel le Père, tel le Fils. Ça, c'est la joie d'appartenir à une grande famille spirituelle et d'avoir une famille équilibrée et saine, même ici sur la terre. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu nous aime. Il est notre Père. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est dans notre cœur et son Esprit nous fait pousser des cris « Abba, Père, Papa, Dieu ». Je vais vous dire une chose. Je vous aime. Amen. Je vous aime. Moi, je vais passer l'éternité avec vous autres. Amen. C'est pourquoi c'est de valeur. On voit des fois des personnes qui vont se chicaner entre eux. Est-ce qu'ils ne pensent pas au fait qu'ils vont être obligés peut-être de partager une chambre au ciel?
Moi, je suis convaincu que Dieu a un bon sens d'humour. Et si vous avez de la misère avec quelqu'un, un frère, une sœur en Jésus-Christ, ça ne m'étonnerait pas du tout que vous êtes obligé de chambrer avec cette personne. Hein? Au ciel. Réglez ça, là, hein, mes enfants. C'est comme on dit, ma mère a fait ça avec moi à chaque fois que mon frère et moi, on commençait à chicaner. Et elle a dit, OK, c'est correct. Pour ce moment-là, jusqu'au moment que vous êtes prêts à jouer ensemble, vous allez aller chacun dans votre chambre, être isolé et seul, vous jouez avec personne, à moins que vous jouez ensemble, dans l'harmonie et dans la paix. Amen. Et c'est comme ça que je suis convaincu que Dieu le Père veut faire la même chose. Vous allez vous entendre. Amen. Et c'est bon, parce que dans notre église, nous avons une bonne atmosphère. Nous avons vraiment... Et s'il y a une chose que j'entends souvent... Quand les gens viennent visiter notre église, ils disent, oh, on ressent l'amour. On ressent l'amour de Dieu. Souvent, j'entends cela. Est-ce qu'on a des problèmes comme n'importe quelle famille? Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est parfait? Oui. Est-ce que l'amour parfait de Dieu est dans notre cœur? Oui. Est-ce qu'on est capable de marcher dans l'amour parfaitement? Oui. Et quelle joie d'appartenir à sa famille. Amen. On va se lever debout, on va prier. Ce matin, au nom de Jésus. Combien de vous, vous voulez vraiment trouver et réaliser votre raison d'être sur la terre? Encore, s'il y a une chose qu'on a à dire ce matin, c'est que c'est impossible, vous êtes dans l'impossibilité de réaliser votre destinée et votre raison d'être sans marcher dans la lumière de votre position d'unité et d'amour dans la famille de Dieu. Vous pouvez, la main gauche ne peut rien faire sans le bras. Le bras ne peut rien faire sans la main. On a besoin les uns des autres. La famille de Dieu est grande, glorieuse et unie par l'amour. Et on va prier ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tanya va jouer un peu, musique doucement. Et ce matin, je pense qu'il y a des personnes qui sont venues, et peut-être dans votre cœur, vous aviez vraiment besoin des réponses. Et vous avez eu des réponses ce matin. Et à chaque dimanche matin, on aime toujours, à chaque dimanche, chaque semaine, on donne une occasion pour les gens qui n'ont pas encore pris une décision, qui n'ont pas encore choisi le bon père, qui ne sont pas encore dans la bonne famille. On donne une occasion pour les gens de passer de la mort spirituelle à la vie. Et c'est une chose qui peut se passer dans un clin d'œil. C'est un miracle que Dieu peut effectuer dans ton cœur et dans ta vie instantanément dès que tu crois dans ton cœur et que tu confesses avec ta bouche. La Bible dit, avec tous les yeux fermés, écoutez, la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et sauvé veut dire né de nouveau, transporté des royaumes des ténèbres et né dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans la famille. Et avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux prendre une décision, je veux choisir le bon Père, je veux être sûr et certain que le Père de lumière est mon Père céleste. Je veux naître de nouveau ce matin. » Avec tous les yeux fermés, je ne vais pas vous embarrasser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Oui, je prie pour moi. » J'ai besoin d'accepter Jésus ce matin comme Sauveur et Seigneur. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de naître de nouveau ce matin? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va juste prier cette prière ce matin. Et si tu es prêt à te repentir et tourner ton dos au péché et vraiment suivre le Seigneur et tu crois de tout ton cœur, on va prier cette prière. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi et celui qui a levé la main de tout ton cœur de prier cette prière. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Je crois de tout mon cœur que tu l'as ressuscité des morts et qu'il est vivant. Viens entrer dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle création. Au nom de Jésus, je confesse avec ma bouche que je suis ton enfant. Je suis né de nouveau
Je suis une nouvelle création. L'amour de Dieu est dans mon cœur. J'ai besoin de développer cet amour. Même si je ne le ressens pas, cet amour est là. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre en harmonie avec toi et en amour avec ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen.